98.5 Montréal. Toujours la référence. 98.5 Incontournable. Incontournable. Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Alors, je vous avais annoncé les nouvelles, mais c'est la conférence de presse du ministre Robert. Écoutez, moi, je suis content parce que ça fait plusieurs fois que je dis on voit la santé, on voit le premier ministre, on voit tout le monde, mais on voit pas le ministre Robert, alors que l'éducation est très importante en ce moment. Alors, il commence.
Merci beaucoup.
OK.
Merci pour votre présence, Dr Massé. Merci aussi à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Salutations aux journalistes. Je veux d'abord souhaiter mes vœux de bonne année à tout le monde, puisque c'est la première fois que je prends vraiment publiquement la parole en ce début d'année. Particulièrement une bonne année aux élèves, à qui je pense toujours, qui sont toujours présents dans ma tête, mais aussi évidemment bonne année à tout le personnel de nos écoles, tout le personnel du ministère et tous les gens qui œuvrent dans le réseau scolaire, y compris, bien sûr, les parents qui sont des partenaires essentiels. C'est important aujourd'hui de faire le point sur la situation dans notre réseau scolaire. Le premier ministre a fait une annonce il y a maintenant 2 jours sur la date de rentrée scolaire, une annonce qui a été très bien accueillie. Donc, dès lundi prochain, nos jeunes du préscolaire et du primaire vont retourner en classe. Une semaine plus tard, le 18, ce sera le tour des jeunes du secondaire, mais aussi des gens de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle. Mais évidemment, une fois qu'on a annoncé les dates, beaucoup de questions subsistent. Et ça va me faire plaisir aujourd'hui de répondre à ces questions et de donner des précisions. Mais juste avant, je pense qu'il faut mettre en perspective les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, dans une perspective un peu plus grande, en regardant l'année scolaire dans son ensemble, et je vous dirais même en regardant ce qui se passe dans le réseau scolaire depuis le début de la pandémie. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on a eu, somme toute, un automne réussi sur le plan académique. Bien sûr, rien n'était parfait, c'était pas possible d'avoir une fréquentation scolaire sans anicroche, bien sûr, en temps de pandémie mondiale, mais le plan qu'on a déposé en juin 2020, qu'on a actualisé avec des ajustements au mois d'août, nous a permis de garder nos écoles ouvertes tout le long de l'automne, avec une particularité spéciale qu'on a eue au Québec, qui n'est pas partout, et ce n'était pas partout le cas à la grandeur du Canada et dans tout l'Occident. On a gardé la priorité nationale sur l'éducation et on a gardé la fréquentation scolaire obligatoire. Et dans toutes ces conditions, tout le long de l'automne, 98 % des classes sont demeurées ouvertes. C'est exceptionnel et je pense que c'est important de dire que c'est un défi qu'on a relevé comme société, avec les acteurs du réseau scolaire, ensemble. Un défi relevé. Maintenant, bien sûr, après la pause du temps des fêtes, les gens se sont demandé, oui, mais est-ce qu'on réouvre les écoles et quand est-ce qu'on les réouvre? Très clairement, je pense qu'il y a un consensus assez fort au Québec pour dire qu'on doit réouvrir le plus rapidement possible. J'ai vu des interventions de l'Association des pédiatres qui allaient en ce sens-là aussi, un très grand regroupement de médecins, des spécialistes en éducation, tous les partenaires du réseau scolaire, des parents et même beaucoup d'élèves ont dit « je veux retourner à l'école ». Donc, on veut que nos jeunes aillent à l'école, mais évidemment, on ne peut pas faire comme si la pandémie n'était pas là. On doit s'adapter. On voit avec les cas qu'il y a au Québec, dans la communauté, que les temps sont durs. Donc, on doit poser des gestes différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec une actualisation du plan scolaire qui arrive avec des informations qui seront valides, bien sûr, jusqu'à la fin du mois de juin. Et essentiellement, je vous dirais que ce sont des bonnes nouvelles. On arrive avec des mesures additionnelles qui vont venir donner un coup de main du point de vue pédagogique, du point de vue sanitaire pour assurer la santé et la sécurité de tous ceux qui fréquentent nos écoles. Puis aussi des mesures pour prendre soin des gens d'un point de vue de la santé mentale. C'est important de le mentionner. L'objectif derrière tout ça, c'est entre autres de réduire la pression. Réduire la pression sur le réseau, sur les parents, et sur les élèves. Les équipes écoles font un travail formidable, mais tout ne peut pas reposer sur les épaules des enseignants et des parents. Il faut donner de l'aide à tout ce monde-là. C'est pour ça qu'on annonce qu'on va mettre en place, dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois de janvier, des formules de tutorat. Des formules de tutorat qui viendront aider nos élèves qui éprouvent des difficultés, qui ont des retards scolaires. On va lancer ce programme-là en utilisant notre plateforme Répondez Présent, qui est une plateforme de recrutement qui a très bien fonctionné l'automne dernier. Donc, on va la réutiliser dans les prochaines semaines. On va bientôt donc lancer un appel au personnel volontaire dans nos centres de services scolaires, aux retraités de l'enseignement, puis aussi à nos étudiants au collégial et à nos étudiants dans le réseau universitaire, surtout ceux qui se préparent à une carrière dans le monde de l'éducation. Ces gens-là pourront devenir des tuteurs et donc aider, accompagner, soutenir des élèves qui auront été ciblés par les enseignants, ceux qui connaissent le mieux les besoins des élèves. En plus, avec des partenaires, on va lancer des forums de discussion pédagogique en ligne qui seront disponibles pour aider les élèves qui ont besoin de soutien, donc à l'extérieur des heures de classe et même au-delà des programmes de tutorat. Il ne faut pas oublier non plus la santé mentale. Bien sûr, il y a la réussite scolaire, mais il y a la réussite éducative et il y a l'état d'esprit de nos élèves. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que bientôt, il y aura une application mobile qui sera disponible, qui va permettre à nos jeunes d'avoir accès à de nombreuses ressources, mais aussi des témoignages, des vidéos, du clavardage en direct pour briser l'isolement et aider nos jeunes à passer à travers cette période stressante. Et avec une application mobile, je pense qu'on va aller là où les élèves sont souvent, c'est-à-dire sur leur téléphone, qui est le moyen pour eux d'accéder à toutes sortes de ressources. Maintenant, un mot sur l'évaluation, les évaluations des apprentissages, les bulletins. Comme on le sait habituellement, il y a 3 bulletins dans une année scolaire normale. Mais là, on ne vit pas une année scolaire normale. On a déjà annoncé qu'il allait y avoir cette année 2 étapes, donc 2 bulletins. Le premier bulletin devait être remis au plus tard le 22 janvier, mais avec tout ce qu'on a vécu l'automne dernier et avec la pause des fêtes, il y a eu des gens qui ont demandé un petit délai supplémentaire. Donc aujourd'hui, on annonce que oui, ce sera possible, si nécessaire, d'attendre jusqu'au 5 février pour remettre le premier bulletin. Mais on doit aussi regarder la pondération des bulletins. Vous savez, il y a un bulletin, il y a un second bulletin, puis après, il y a le résultat global qui est formé de la compilation de ces 2 notes-là. Alors, j'annonce aujourd'hui qu'il y aura une pondération différente. On va diminuer la valeur du premier bulletin et augmenter la valeur du second bulletin. Et là, je m'adresse aux élèves. Si vous avez eu des bonnes notes, des bons résultats, si malgré tout ce qui s'est passé, vous avez réussi vos apprentissages, tant mieux, c'est pas perdu, ces bonnes notes-là vont rester et vous avez tous les acquis pour réussir, bien sûr, la seconde étape. Si vous avez eu de la difficulté, des retards, vous êtes inquiet des notes qui s'en viennent dans le premier bulletin, bien moi, j'ai le goût de vous dire, lâchez pas, on veut vous garder motivé. En donnant une plus grande importance au second bulletin, on vous donne la chance de vous rattraper, de réussir votre année scolaire. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on prend cette décision-là. Autre allègement que j'annonce aujourd'hui, c'est que nous allons annuler la passation des examens ministériels, que ce soit ce qu'on appelle les tests du ministère ou les épreuves à sanction secondaire 4 et 5, eh bien, elles n'auront pas lieu cette année, puisque c'est une année exceptionnelle. On va annuler ces épreuves, mais on va aussi rendre disponibles, vraiment d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois de janvier, des documents qui ont été demandés par les enseignants ces dernières semaines, c'est-à-dire un document qui regroupe les incontournables, les savoirs essentiels qui doivent être enseignés pour que les jeunes réussissent leur année scolaire, mais aussi commencent l'an prochain avec confiance. Donc, l'annulation des épreuves ministérielles et ce document des savoirs essentiels viennent aussi faire baisser la pression. Donc, on va être exigeant cette année, bien sûr, comme on l'est toujours. On ne veut pas faire de nivellement vers le bas, mais on doit aussi être bienveillant. Conjuguer exigence et bienveillance, je pense que c'est à notre portée et c'est nécessaire cette année. On met en place des moyens exceptionnels, on prend des décisions exceptionnelles parce qu'on vit une année exceptionnelle. Il y a d'autres mesures qui vont être mises en place aussi dans les prochains mois pour l'été qui vient et même pour l'année scolaire 21-22.
Et c'est des choses qu'on va mettre en place en travaillant avec les syndicats, avec les directions d'école, avec tous les partenaires, parce qu'on veut voir à moyen et long terme. Et ça, je pense que c'est rassurant aussi de voir qu'on planifie une continuité pédagogique sur plus qu'une année. Mais revenons au très court terme, à ce qui se passe cette semaine et la semaine prochaine. Une autre bonne nouvelle que je suis très content de vous annoncer, c'est que dès la semaine prochaine, tous les élèves du Québec dans le réseau public auront accès à un outil technologique, donc une tablette ou un ordinateur, s'ils en ont besoin. Pas seulement les élèves du secondaire, mais aussi les élèves du primaire. C'est un tour de force qu'on peut réussir parce qu'on a été proactif, on a débloqué 150 millions de dollars au printemps dernier, on a passé des commandes en juin, on a reçu beaucoup de matériel informatique cet automne, on en a reçu jusqu'en décembre. Il y a des livraisons qui se font encore au moment où on se parle pour que dès la semaine prochaine, 100% des besoins soient comblés. Je le répète, que ce soit au secondaire, mais même aussi au primaire. Un mot sur la qualité de l'air. On a beaucoup parlé dernièrement de la qualité de l'air, la ventilation dans les écoles. Donc, je veux revenir sur cette question-là et faire le point, bien sûr, ensuite avec le docteur Massé qui viendra nous parler avec toute son expertise, de la qualité de l'air. Mais à la fin de l'année 2020, on a demandé à ce que des tests soient réalisés pour mesurer le taux de dioxyde de carbone, le CO2. On nous dit que le taux de CO2 est un excellent indicateur de la qualité de la ventilation, puis de l'échange d'air qui se passe, la part d'air frais dans un local. Donc, on a mesuré le taux de CO2 selon un échantillonnage important, 330 écoles, 1369 classes qui ont toutes été testées trois fois chacune. Et les résultats sont quand même assez encourageants, je vous dirais, et assez rassurants. D'abord, je vous dis qu'au Québec, le règlement sur la santé et la sécurité nous dit qu'en milieu de travail, on peut tolérer des taux de jusqu'à 5000 ppm, 5000 parties par million de CO2. C'est assez élevé. Dans le réseau scolaire, on est beaucoup plus exigeant que ça, beaucoup plus protecteur que ça. On vise 1000 ppm. On ne veut pas dépasser 1000 ppm. Et l'échantillonnage qu'on a fait nous arrive avec un taux moyen de 804 ppm. Donc, 20% de mieux que la limite qu'on a, qui est déjà très exigeante. Donc, ça, c'est le résultat de l'échantillonnage très sérieux, comme je l'ai dit, plus de 330 écoles. Donc, c'est évidemment quelque chose de rassurant. Mais ce n'est pas parfait, disons-le, parce que quand on arrive avec une moyenne, ça ne reflète pas l'ensemble de tous les résultats, bien sûr. On arrive avec environ 3% des locaux testés qui présentent des problèmes et pour lesquels des mesures, bien souvent, ont déjà été prises, dès le mois de décembre et d'autres mesures seront prises là, très, très prochainement, bien souvent même avant l'arrivée des élèves. Donc, des correctifs seront apportés, soit en ajustant le protocole du système de ventilation mécanique, le protocole d'ouverture des fenêtres, d'ouverture des portes. Et je veux préciser quelque chose. Si jamais on constate qu'il n'est pas possible de bien ventiler, de bien aérer ces locaux-là, eh bien, on va les utiliser pour d'autres choses. Ils ne seront tout simplement plus utilisés comme des locaux de classe. Donc, je pense que ça, c'est très rassurant. Aussi, je veux préciser que suite à une recommandation de la santé publique et du rapport que je rends public aujourd'hui, toutes les écoles seront testées pour évaluer le taux de CO2 et donc la qualité effective de la ventilation dans l'ensemble des établissements scolaires. Si des mesures additionnelles doivent être prises au regard de ces tests, elles seront prises très rapidement, mais je le répète, les tests qu'on a faits avec l'échantillonnage nous montrent un taux d'environ 804 ppm, ce qui est quand même encourageant. Je veux arriver avec des dernières mesures, des mesures additionnelles, des mesures sanitaires qui nous permettent de réouvrir nos écoles avec confiance, en plus des mesures qu'on avait déjà à l'automne. Les élèves de 5e, 6e année, comme l'a déjà dit le premier ministre, porteront à l'avenir un masque même en classe. Les élèves de première à quatrième année, eux, devront porter un masque dans les aires communes, dans les lieux communs, dans les corridors, dans les autobus. Mais je veux rassurer tout le monde, on n'impose pas le masque ou le couvre-visage à l'extérieur, dans la cour de récréation. On veut que nos jeunes puissent sauter, courir. Et bien sûr, les facteurs de risque sont beaucoup moins grands à l'extérieur, donc pas de masque dans les cours de récréation pour nos petits du primaire. Pour les élèves du secondaire, de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle, dès le retour en classe, eh bien, il faudra maintenant qu'ils portent des masques de procédure. Avant, c'était des couvre-visages, mais suite à une recommandation de la santé publique, on fournira 2 masques de procédure par jour, par élève. C'est un facteur de protection supplémentaire. Dr Massé, tout à l'heure, pourra nous parler de d'autres mesures sanitaires supplémentaires encore, notamment sur les vaccins. Donc, on le voit, la situation est loin d'être normale. C'est une situation exigeante, mais on a des mesures à la hauteur de la situation actuelle qui nous permettent de garder nos écoles ouvertes et de prioriser l'éducation comme on le fait depuis le début. On arrive avec un plan qui est clair, qui est solide, qui est le fruit de nombreuses consultations et qui touche bien sûr les sphères pédagogiques, sanitaires, puis aussi la question de la santé mentale. Je veux donc, à la fin, souligner le travail formidable, que font tous les membres du personnel de nos écoles, bien sûr, au premier chef, nos enseignants, qui enseignent tantôt à distance, tantôt en présence, mais toujours de façon très professionnelle. Je veux souligner leur travail parce que c'est grâce à eux, mais c'est grâce aussi à la participation de tous les experts, notamment les gens du comité tactique que je consulte fréquemment et tous les partenaires, qu'on arrive à mettre en place toutes les belles mesures que je viens d'annoncer aujourd'hui. Et c'est grâce à toutes ces mesures-là et grâce au travail des gens sur le terrain que l'année 2021 sera, je le souhaite et je le pense sincèrement, une année de réussite éducative, qu'on va vaincre ensemble cette COVID et que 2021 sera donc l'année de l'espoir. Merci.
Merci beaucoup, M. Roberge. M. Massé, la parole est maintenant à vous.
Merci beaucoup, M. Roberge, mesdames, messieurs. D'abord, je suis heureux de me joindre à cette annonce pour le réseau de l'éducation et de présenter certaines des recommandations du rapport sur la ventilation et la transmission de COVID-19, tant en milieu scolaire qu'en milieu de soins. Tout le monde est bien conscient de l'intérêt important que revêt la qualité de l'air dans ces différents milieux-là. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. C'est pour ça que le ministère de la Santé a mandaté un groupe d'experts, en fait une vingtaine d'experts différents, incluant 6 réviseurs externes, qui ont à la fois fait le point sur les connaissances scientifiques qui entourent la transmission de COVID-19 en liaison avec la ventilation, et aussi pour soutenir la prise de décision, les autorités dans le maintien et l'entretien des systèmes de ventilation et la protection des gens par cette transmission. Donc, le rapport est normalement en ligne aujourd'hui avec un résumé et il a été basé sur des travaux de l'Institut national de santé publique à qui on avait demandé déjà l'été dernier de regarder la question parce qu'on voyait qu'il y avait des développements, des connaissances dans ce sujet-là. Et à l'instar de ce qui s'est fait aux États-Unis, ailleurs au Canada, en Europe, donc en concordance, on a regardé toute la littérature et il y a 3 documents de l'Institut, 3 documents d'appui de l'Institut national de santé publique qui sont aussi rendus disponible en ligne en même temps. Un qui porte sur la transmission de COVID-19 par voie aérienne et par aérosol. Le deuxième qui porte sur la ventilation comme telle et son rôle. Et le troisième qui porte sur la prévention des infections qui pourraient être associées les mécanismes de prévention d'infection. Tel que le démontrent ces documents-là, on voit que la notion d'aérosol, donc de petites particules dans l'air, tout petites, là, plus petites que 100 microns, peuvent se déplacer. Et comme on l'a mentionné au cours des derniers mois, cette transmission-là se fait surtout à courte distance. On a toujours parlé du 2 mètres, c'est qu'effectivement, c'est à l'intérieur de 2 mètres que la très grande majorité de la transmission s'effectue. Ceci dit, il peut y avoir des circonstances où est-ce qu'il peut y avoir une transmission à plus longue distance. Par exemple, quand on parle très fort, quand on chante, quand on crie, quand on éternue, quand on tousse, toutes ces circonstances-là peuvent faire qu'il peut y avoir ces gouttelettes-là très fines qui peuvent se déplacer plus loin. Mais on ne parle pas d'une transmission à très longue distance et reste pas en suspension dans l'air très longtemps, comme on voit pour d'autres maladies, par exemple pour la tuberculose, où là, il peut y avoir une transmission qui peut s'effectuer à plus long terme. le risque de transmission est augmenté dans certaines circonstances. Puis encore une fois, vous allez retrouver des choses qu'on mentionne depuis des mois. Par exemple, dans des espaces restreints, où est-ce que les gens sont collés, les gens sont rapprochés, où est-ce qu'on a une forte densité d'occupants, donc par exemple, quand il y a plusieurs personnes qui sont dans une même salle. Lorsqu'on a une exposition prolongée, on a souvent parlé de l'exposition de 15 minutes et plus comme étant un indicateur de cette exposition prolongée. Puis évidemment, quand ces endroits-là sont mal ventilés, bien là, on permet que les particules en suspension dans l'air puissent s'accumuler. À partir de ces constats, les experts sont arrivés à proposer plusieurs recommandations de nature générale, mais importantes. Le premier, c'est que le respect des exigences de qualité de l'air telles qu'elles sont définies dans les lois, par exemple la loi sur la santé et sécurité du travail, mais aussi dans les guides. Il y a des guides au niveau du ministère de l'Éducation, des guides au niveau du ministère de la Santé, et que ces guides-là respectent des normes internationales reconnues. Donc, la première recommandation, c'est qu'on les suive, ces normes-là, qu'on suive ces guides-là, puis qu'on s'assure de leur respect. Le deuxième, et c'est ce qui a été mentionné par M. Robert il y a quelques minutes, c'est le fait qu'il devrait y avoir, il doit y avoir des inspections systématiques qui sont faites pour mesurer différents paramètres, le CO2 étant un de ces indicateurs-là, qui donne une figure générale, mais au besoin, il y a plusieurs autres indicateurs qui pourront être regardés, et que ça soit fait annuellement, idéalement avant l'hiver, mais ce que j'entends, puis j'en suis très content, c'est que le ministère de l'Éducation va compléter l'étude qu'il a faite auprès de tous ces bâtiments. Troisièmement, et ça aussi, ça a été annoncé, c'est que quand il y a des anomalies, il y a des correctifs qui soient faits très rapidement, et qu'il y a un monitoring systématique dans les locaux où la ventilation soit déficiente. Donc, il ne s'agit pas de faire un regard une fois, mesurer les paramètres une fois, mais quand on voit qu'il y a des anomalies, bien là, à ce moment-là, il faut s'assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre et qu'on va le suivre régulièrement. Concernant plus spécifiquement le réseau de l'éducation dans des écoles qui sont ventilées naturellement, dans le réseau de l'éducation, il y a environ 3300 écoles, si je ne me méprends pas, autour. Et puis, à peu près, j'arrondis les chiffres, mais à peu près les deux tiers sont ventilés naturellement. Donc, il y a des mesures qui doivent être prises pour augmenter l'apport d'air frais, particulièrement dans la situation actuelle. Puis, parmi ces mesures-là, on recommande d'ouvrir les portes, les fenêtres avant les cours, entre les cours, à la fin de la journée, même en période hivernale. Donc, c'est sûr que s'il fait très, très froid dehors, à ce moment-là, les gens vont peut-être ajuster, mais c'est essentiel de l'ouvrir, de ventiler assez longtemps pour pouvoir avoir un apport d'air frais à plusieurs reprises au cours de la journée. Deuxièmement, de laisser les portes des classes ouvertes le plus possible. Ça peut avoir certains inconvénients, ça peut être un peu plus bruyant, mais on pense que pour la qualité de l'air, c'est quelque chose qui va aider. Troisièmement, évidemment, éviter d'utiliser les locaux qui sont non ventilés ou mal ventilés comme salle de classe ou de réunion. Puisqu'on parle aux salles de classe, mais il n'y a pas seulement les salles de classe, il peut y avoir des salles où est-ce que les professeurs ou les autres travailleurs au niveau des écoles peuvent se regrouper. On sait que ça a pu arriver que ce soit des lieux de transmission d'infection. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. On est conscient qu'il y a des contraintes quant à la disponibilité des locaux. Et donc, si pour des raisons de force majeure, ces locaux-là, pour lesquels on a identifié qu'il y avait des difficultés de ventilation, devaient être occupés. À ce moment-là, systématiquement, on devra limiter le nombre de personnes, puis limiter significativement le nombre de personnes. Donc, on parle de baisser 50 % au moins le nombre de gens qui vont utiliser ces pièces-là. L'utilisation de ces locaux-là devrait être que temporaire, en attendant qu'on ait trouvé un autre local pour pouvoir travailler. Et les consignes sanitaires doivent être strictement respectées. Beaucoup de discussions quant aux fameux purificateurs d'air. C'est des dispositifs de filtration mobile qui sont mis, qui recyclent l'air qui est à l'intérieur d'un local, que ce soit une classe ou autre. Le groupe d'experts ne recommande pas l'utilisation de ces purificateurs d'air à l'intérieur des classes dans l'école. Même s'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, même s'il y a peut-être des écoles qui en ont acheté, ce n'est pas une recommandation du groupe d'experts pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas fait la démonstration que ces purificateurs d'air étaient capables de limiter la transmission des infections par aérosol. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas filtrer des virus, des bactéries. Ça ne veut pas dire que les filtres ne peuvent pas avoir une certaine efficacité. Il y a beaucoup de modèles différents. Mais ça veut dire qu'on n'a pas démontré clairement que ça pouvait diminuer la transmission des maladies. Deuxièmement, puis la deuxième est vraiment importante, alors que c'est fait pour travailler à courte distance, c'est des gouttelettes, c'est des micro-gouttelettes, puis donc près de la personne qui émet ces gouttelettes-là pour aspirer les gouttelettes puis les filtrer, dans une classe, on ne sait pas c'est qui. Alors qu'en milieu de soins, on sait c'est qui les personnes infectées, où il y a beaucoup moins de monde, donc on est capable de savoir où, si jamais on en avait besoin. En milieu scolaire, les gens qui ont des symptômes, ils ne devraient pas être à l'école. Les gens qui sont infectés ne devraient pas être à l'école. Fait que par définition, on ne sait pas c'est qui. Puis, mettre un appareil à une place, dans une classe, c'est prouver que ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit proche de la personne qui peut émettre ces gouttelettes-là. Donc, c'est comme si on se donnait un faux sentiment de réassurance en pensant qu'on le met à un endroit. Il faudrait qu'il y en ait presque autour de tout le monde ou très proche de tout le monde pour penser que ça pourrait théoriquement avoir une efficacité. Donc, c'est une efficacité qui est réduite dans une grande pièce. Pour une classe, tout le monde dit, bien, un appareil dans une classe, pas ça qui va régler la question. Troisièmement, ça peut créer des mouvements d'air si ce n'est pas bien orienté, si ce n'est pas fait par quelqu'un qui vraiment surveille son installation puis son fonctionnement. Ça peut créer des mouvements d'air qui eux-mêmes peuvent mettre des aérosols en suspension. Donc, ça peut provoquer un risque si ce n'est pas bien placé, pas bien installé. Donc, les gens ne pourraient pas le déplacer puis le bouger. Quatrièmement, ça peut provoquer du bruit. Ça dépend des appareils. Il y en a qui sont plus bruyants, il y en a qui sont moins bruyants. Mais ce bruit-là pourrait nuire à la concentration des gens. Puis cinquièmement, si on met des appareils comme ça en classe puis que les gens pensent que les autres mesures sont moins importantes, qu'on peut se rapprocher, qu'on peut, à l'occasion, enlever son masque, qu'on peut faire moins attention aux contacts qu'on peut avoir avec les gens parce que ça crée un sentiment de sécurité, on passe à côté du message. Parce que c'est clairement ces autres moyens de prévention-là qui sont efficaces, les plus efficaces. Donc, je ne veux pas négliger le rôle de la ventilation puis de la qualité de l'air à l'intérieur des classes, à l'intérieur des écoles, mais ce n'est pas ça qui est la bonne façon de régler les choses. Donc, si jamais il y avait des problèmes particuliers, il y a d'autres techniques, d'autres approches au niveau de la ventilation qui peuvent être utilisées, comme des apports d'air qu'on va faire vers l'extérieur, ce qui n'est pas le même principe qu'un purificateur d'air. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé en milieu scolaire. En milieu de santé, il peut y avoir des indications dans certaines situations où est-ce qu'on peut avoir un complément, mais là, c'est une situation complètement différente. Vous allez voir des rapports où est-ce que les gens vont dire, puis on l'a vu, les gens ont dit, bien, on devrait l'utiliser, mais les gens ne faisaient pas la différence entre le milieu de travail ou le milieu de santé, le milieu de soins ou le milieu de l'éducation. Fait que les experts ici ont fait bien attention pour distinguer les uns et les autres, et c'est des indications différentes, c'est des besoins différents. Il faut en tenir compte dans les recommandations. Ce n'est pas une affaire qui s'applique partout auprès de tout le monde. Dans le rapport, il y a plusieurs recommandations autres, donc je vais vous laisser en prendre connaissance, mais il y en a une, évidemment, de celle-là, qui porte sur l'évaluation de ces appareils de filtration mobile. Je voudrais parler de deux autres choses, pour ne pas prolonger la présentation. Le premier, c'est que depuis plusieurs mois, semaines, on regarde s'il y a de la transmission d'influenza. On est au mois de janvier. Normalement, décembre, janvier, on voit de la transmission d'influenza. Les mesures qui ont été mises en place ont certainement contribué au fait qu'il n'y a pas de circulation d'influenza actuellement au Québec. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver dans des semaines devant nous, mais il n'y en a pas actuellement. Par contre, on a des enfants qui ont des symptômes respiratoires. Dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas d'influenza, mais il peut y avoir d'autres virus qui circulent. Mais dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas de circulation d'influenza, puis qu'il y a des gens qui ont des symptômes respiratoires, et clairement, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont chercher, utiliser des tests de dépistage, des tests de diagnostic. Dans certains cas, quand les gens ont des symptômes, on demande à tous les enfants ou aux parents des enfants de faire dépister leurs enfants s'ils ont des symptômes même de ne pas attendre 24 heures. Cet automne, on a parlé du fameux 24 heures, mais à ce moment-là, c'est parce qu'on ne voulait pas que les gens aillent passer des tests de dépistage, puis qu'à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui soient comme des tests qui ne soient pas pertinents. Mais l'épidémiologie actuelle, ça pourrait changer dans quelques semaines, mais l'épidémiologie actuelle nous montre qu'il y aurait clairement un avantage. Donc, ça renforçait les mesures sanitaires dont on parlait tantôt. Clairement, un avantage à ce que les jeunes puissent aller passer un test de dépistage. Ils doivent y aller, ils devraient y aller, même si ça ne fait pas 24 heures. Et donc, dans le contexte du retour à l'école, on demande à tout le monde si les enfants ont des symptômes. Enfants, l'école primaire, l'école secondaire, s'ils ont des symptômes, d'aller se faire dépister, de ne pas aller à l'école avec des symptômes, parce qu'il y a des chances qui sont significatives que ça pourrait être une infection liée à la COVID. Dernier point. Concernant la vaccination, vous savez, la campagne de vaccination a débuté. Ça commence un peu goutte à goutte parce qu'on est capable d'utiliser les doses qu'on a. On n'en a pas beaucoup, mais ces doses-là vont être bien utilisées. Il y a une série de priorités qui ont été identifiées. Et je voulais mentionner que pour les professeurs à l'école, primaire, secondaire, pour les éducatrices en service de garde à l'enfance, on considère que tous ces travailleurs-là, professeurs, enseignants, éducatrices, sont des travailleurs essentiels. On le voit, on le sait que c'est des travailleurs essentiels. Qui pourrait le nier? Donc, à ce moment-là, ils vont être mis dans la liste des travailleurs essentiels. Ils ne vont pas être vaccinés avant nos personnes âgées en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Vous comprenez bien l'urgence de la situation. Mais ils vont être vaccinés avant des gens de leur âge, de leur groupe prioritaire. Ça veut dire avant, dans la première moitié des gens qui vont être vaccinés. Donc, on voulait le mentionner parce qu'on pense que c'est important.
Alors... Denis, écoute, c'est quand même long, il y a beaucoup de détails, je comprends.
Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Alors, mais nos auditeurs veulent un peu comprendre le résumé de ça pour en tirer les grandes lignes.
Mais en tout cas, ce qui vient d'être mentionné est assez important.
Denis Couture, excusez-moi, on parle TV, ça.
En ce qui concerne la grippe, l'influenza, il n'y en a pas présentement. Il n'en circule à peu près pas au Québec. Alors, ce qu'a dit le ministre est assez important, ou plutôt le directeur de la santé publique adjoint, Richard Massé, c'est que si les enfants ont des symptômes, allez les faire tester très rapidement parce qu'il y a plus de chances que ce soit la COVID-19 qu'une grippe, une influenza, parce que l'influenza ne circule pas. On a parlé beaucoup des purificateurs d'air. Ça a fait de l'actualité énormément. Et là, dans l'étude qui est mentionnée ce matin, c'est pas recommandé pour plusieurs raisons. Il n'est pas démontré que le purificateur limite réellement la transmission. L'appareil doit être proche d'une personne infectée. Donc, on ne sait pas qui pourrait être infecté dans la classe. Donc, on ne pourrait pas le placer comme il faut. Il en faudrait plusieurs, donc ce serait compliqué.
Il y a des filtres plus forts avec des filtres EPA. Mm-hmm. Ça, j'ai déjà fait de la décontamination. Que...
Oui, en tout cas, c'est ce que dit cette étude-là. Et ça déplace de l'air. Est-ce que ça déplacerait de l'air de façon adéquate? Mm-hmm. Ça aussi, on n'est pas sûr. Le bruit pour la concentration des élèves et surtout le faux sentiment de sécurité que ça pourrait donner. Donc, des autres mesures, les autres consignes sanitaires qui pourraient être négligées avec la présence d'un purificateur d'air. Donc, on a fait des études aussi. Du côté des écoles, le ministre Roberge nous en a parlé, 330 écoles, 1369 classes qui ont été étudiées. On a fixé une limite de CO2 à 1000 ppm et on a constaté que le taux moyen est de 804, donc inférieur à la limite que l'on s'est donnée.
1000 pour les écoles, mais 5000 pour les adultes.
Oui, c'est ça. Et dans 3%, parce que 804, c'est une moyenne, dans 3% des locaux, ça présente des problèmes. Il y a des correctifs qui vont être apportés pour bien ventiler. Et si c'est impossible, ces locaux-là ne seront plus utilisés en tant que classe.
Mais il ne dit pas où on va mettre les élèves.
Ces détails-là, on ne les a pas eus encore.
Okay.
Il y a aussi, au niveau pédagogique, des choses assez importantes qui ont été dites. Entre autres,
si vous me permets, Denis, oui? Une chose que je trouve très, très, très bien, il repousse les bulletins.
Oui, c'est ça.
Ça fait du bien.
C'est le premier bulletin qui devait être mis le 22 janvier. Ce sera le 5 février. Et puis, il va y avoir une pondération différente aussi. La valeur du premier...
Pondération en français pour nous autres.
Oui.
Ah oui, Denis, traduit.
Pondération, c'est-à-dire comment on note l'élève.
Oui.
Alors, la valeur du premier examen, du premier bulletin, va être diminuée. et on va augmenter la valeur du deuxième, ce qui veut dire que ça donne une chance pour les prochains mois de se reprendre si jamais on a eu des difficultés. Et comme disait le ministre, ben, si on n'a pas eu de difficultés, ben, c'est un acquis déjà. Annulation des épreuves ministérielles, ce qu'on appelle le test du ministère, et tous les élèves auront aussi les moyens virtuels de suivre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'équipement pour ceux qui n'en ont pas. On a investi 150 millions de dollars là-dedans. Dans les autres mesures académiques, d'ici fin janvier, les formules de tutorat vont être installées. On fait un appel au personnel, aux retraités, aux étudiants universitaires, les étudiants qui étudient en enseignement, là, pour aider les élèves. On va avoir un tutorat d'installer d'ici la fin du mois.
Merci beaucoup, Denis. Je te laisse aller vaquer à tes occupations. Tu en as beaucoup. Mais merci d'avoir résumé pour nous.
Le plaisir.
De retour après la pause, on va parler avec Sonia Etier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec.